Vous écoutez Lille Info comme chaque mercredi entre 17h30 et 18h. Un magazine aujourd'hui réalisé par René Lavergne et animé par Pierre Tiffry. Bonjour Pierre.
Bonjour René.
Heureux de te retrouver sur Radio Campus.
Ouais, ça fait plaisir.
Ben oui, ça fait quand même un petit moment que tu n'as pas animé un magazine sur Radio Campus.
J'ai le trac.
Ah oui. Voilà, donc aujourd'hui, tu vas traiter d'un sujet qui te tient à cœur et que tu maîtrises bien, puisque...
J'ai 40 ans. Non, j'ai pas 40 ans. C'est 40 ans d'innovation pédagogique et de recherche parce que c'est les 40 ans de la faculté de sciences économiques et sociales. Et on va parler de ces 40 ans parce qu'on va les fêter le jeudi 16 juin, ici, au bâtiment des thèses. Eh oui, jeudi 16 juin, au bâtiment des thèses, c'est la fête avec Farida Djellal, le doyen, le nouveau doyen, jeune doyen, pas tout à fait 40 ans. Il y a combien de temps que vous êtes doyen, Farida?
Pas encore une année, puisque j'ai été nommée en octobre, élue en octobre.
Et alors, on va fêter nos 40 ans, et nos 40 ans, pour cette fac, c'est à la fois des exposés, des conférences, mais aussi trois tables rondes, je crois. Alors, une première table ronde sur l'innovation pédagogique. On est très avancé sur l'innovation pédagogique en sciences éco-sociales?
Oui, donc l'idée de cette journée, effectivement, c'était l'organisation de tables rondes. Une première table ronde consacrée aux innovations pédagogiques. Effectivement, le but, c'est de faire un peu un bilan des avancées en termes d'enseignement dans cette faculté. Je pense que oui. D'une part, on a énormément professionnalisé notre enseignement. Par ailleurs, l'économie s'est aussi diversifiée. On a des enseignements pluri- et interdisciplinaires. C'est pour cela qu'on va faire intervenir des anciens, comme Nicolas Van Eclos, des
professionnels. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des professionnels, et notamment, il y en a un qui va nous parler du e-information, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il veut faire?
Voilà, donc Olivier Sirvin, qui est responsable du master Global e-Business. Donc, nous avons souhaité effectivement le faire intervenir dans cette table ronde, parce que beaucoup d'innovations sont en particulier liées aux technologies de l'information, et qu'il est à l'origine d'un master qui marche très bien, qui est un master en plus en langue anglaise.
Et il utilise la visioconférence,
il est à la pointe de toutes les technologies.
Et alors, dans la deuxième table ronde, par contre, on va parler de l'international, des échanges internationaux. Alors, j'ai vu, on va parler des étudiants Erasmus. Il y en a beaucoup?
Oui, je pense que l'Université Lille 1, la Faculté de sciences économiques peuvent également être fiers du développement des relations internationales. Je pense qu'on a été les premiers. Je pense qu'on est toujours dans les premiers en termes de relations internationales. Donc, voilà pourquoi nous avons voulu consacrer une table ronde à ce sujet. Alors, avec deux points différents. D'une part, les étudiants. Et là, effectivement, on a énormément d'étudiants qui partent et d'étudiants qui arrivent. Nous avons énormément de partenaires en Europe et dans le monde. Nous avons énormément d'accords interuniversitaires.
Oui, j'ai entendu dire qu'on travaillait avec le Népal.
Oui, on travaille beaucoup aujourd'hui, effectivement. On développe beaucoup les échanges avec l'Asie, avec le Népal. Nous venons, par exemple, de mettre en place, de délocaliser un diplôme qui est la licence d'économie avec Hanoï. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et donc, cette table ronde, c'est à la fois les relations internationales, recherche, mais aussi enseignement.
Et alors, la troisième table ronde, c'est sur la recherche proprement dit. Et alors là, on est très avancé sur la recherche en sciences économiques et sociales?
Moi, je pense que la faculté de sciences économiques, effectivement, peut être fière de la recherche qui est menée. Nous avons deux gros laboratoires à la faculté de sciences économiques et sociales, hein, le CLERC et Équipe, qui ont été évalués tous les deux A+ par l'ARS. Donc ça, c'est un élément très important. La recherche a beaucoup évolué. On se tourne de plus en plus vers l'interdisciplinarité. Et nous faisons donc intervenir dans cette table ronde des économistes, des sociologues et Fabienne Blaise, qui est la directrice de la MESH.
Alors vous voyez, une journée complète pour parler pédagogie, échanges internationaux et recherche, ça va être passionnant. Il faudra y venir jeudi 16 juin. Mais comme l'université, c'est d'abord les jeunes de 20 ans, on va voir il y a 40 ans comment ils étaient, comment ils sont aujourd'hui. Et on a pensé prendre un vieux disque il y a 40 ans du vieux Léo Ferré, 20 ans.
Bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. gueule. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça s'achète. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout. C'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Pierre-Henri, 20 ans ou un petit peu plus peut-être ?
Un petit peu plus.
Un petit peu plus étudiant CMAI, c'est-à-dire commerce international, il y a 40 ans. Moi j'y étais, René Lavergne y était, on était des gauchistes, on y croyait, on était militants. Maintenant vous êtes planqués et tout ça ?
Non, pas forcément. Aujourd'hui effectivement, la révolte n'est pas toujours la même, mais il y a quand même des changements qui sont apportés. Les étudiants aujourd'hui aussi sont inquiets. Sur un certain nombre de questions, notamment sur l'avenir professionnel, effectivement, c'est normal d'ailleurs, et sur l'avenir aussi de l'économie et du monde. Oui, effectivement, oui, ils s'intéressent beaucoup sur le monde et l'esprit peut-être différemment.
Et alors, est-ce que il y a un rapport entre cette inquiétude et la façon dont vous vivez vos études d'économie ?
Forcément, on s'intéresse un peu plus sur l'actualité. On sait qu'effectivement, on a connu une crise il y a de cela 2 ans, effectivement, économique, qui a beaucoup remis en question le secteur économique. Et les étudiants aujourd'hui de la faculté, justement, se penchent beaucoup sur cette problématique-là. Aujourd'hui, effectivement, on peut aussi, nous, les étudiants, on s'inquiète aussi pas mal sur les mutations, les changements qui sont opérés, notamment par les différents gouvernements. Il y a peut-être 40 ans, on avait l'impression que les syndicats étaient toujours aussi forts, étaient plus forts que maintenant, du moins, mais on voit aussi des révoltes qui ont eu en 2005, notamment avec la réforme des CPE, où les étudiants ont vraiment exprimé leur inquiétude sur le changement du monde. Mais c'est, je ne pense pas que ce soit une révolte spécialement par rapport à l'université, mais une révolte surtout par rapport à leur avenir, une inquiétude surtout par rapport à l'avenir. Ouais.
Olivia, vous qui êtes sociologue, qui êtes partie de l'université il y a 7 ou 8 ans, qui est à terre aujourd'hui, vous avez la même impression sur l'esprit de révolte des étudiants et le rapport avec les sociaux ?
C'est difficile à dire. En fait, on a vu lors des récentes grèves que les étudiants pouvaient se mobiliser, pouvaient vraiment s'engager dans quelque chose. Mais de là à dire qu'ils sont vraiment inquiets pour l'économie, pour l'avenir, effectivement, ils ont 20 ans. C'est peut-être pas ça qui les préoccupe tout de suite. Il y en a sûrement qui le sont, d'autres qui le sont moins.
Et dans le rapport entre l'enseignement de la sociologie et la vie quotidienne des étudiants, est-ce que vous voyez un rapport réel ou bien ils ont l'impression que c'est détaché l'enseignement de leur vie quotidienne et de leurs angoisses ?
Là aussi, c'est très variable. Ça dépend lesquels. Évidemment, notre objectif à nous, enseignants en sociologie, c'est aussi de leur faire comprendre qu'il y a un lien entre cette matière théorique qu'ils étudient et leur vie de tous les jours et les grands événements d'actualité. Je pense aussi que c'est pour ça que beaucoup s'orientent en sociologie, c'est parce qu'ils ont envie de comprendre, de maîtriser, d'avoir une perspective sur ce qui se passe.
Pierre-Henri, oui. La vie quotidienne par rapport à il y a 40 ans, par rapport à aujourd'hui, est-ce que la vie pour un étudiant sur le campus est plus facile, plus difficile ?
Elle est différente. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de métro dans le campus déjà. J'allais dire, je me pose même la question comment les étudiants de l'époque arrivaient ici.
Ils marchaient à pied dans la gadoue.
Ah, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des avancées au sein du campus. On sait qu'on a un réseau Wi-Fi qui a été installé justement pour faciliter l'accès à la communication et aux échanges. Il y a effectivement l'accessibilité qui permet aux étudiants de plus facilement rejoindre le campus et chez eux, le centre de Lille. Donc il y a quand même déjà des avancées, des améliorations, de nouveaux bâtiments. Je prends l'exemple du SH3 qui a été construit entre-temps au sein de la faculté de sciences économiques et sociales. Et en même temps, effectivement, on est sur un campus relativement ancien. Il y a 40 ans, il était flambant neuf encore, et on a encore certains amphis qui sont un peu vieillissants, qui subissent encore un peu l'effet du temps dessus. Mais je sais effectivement que les instances universitaires font des efforts pour éviter le sureffectif au sein des amphithéâtres.
Émilie, c'est vous qui présentez la faculté de sciences économiques et sociales aux lycéens. Quel accueil vous avez quand vous allez dans les lycées ?
J'ai toujours un bon accueil, mais c'est vrai que les lycéens voient un peu... l'université, comme voilà, ce qu'ils voient, c'est des amphis, de gros effectifs. Mais nous, on essaye un peu de casser cette image en leur montrant qu'il y a quand même un accompagnement, qu'il y a des cours en petits groupes, des TD. Ils ne sont pas lâchés comme ça dans la nature. Et ils ont toujours l'occasion de chercher de l'aide, de trouver de l'aide s'ils en ont besoin.
Alors, je voudrais vous rassurer, si je vous disais qu'à 40 ans, on était des grands gauchistes, aujourd'hui, on est des grands bourgeois. Et c'est Jacques Brel qui nous le dit.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Jeudi 16 juin, 40 ans de la faculté de sciences économiques et sociales, 3 tables rondes, une table ronde sur la pédagogie. On a déjà vu des petites choses sur les étudiants et on va parler aussi des relations internationales parce qu'il y a des étudiants étrangers, parce que certains étudiants vont à l'étranger. Alors aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de parler avec Olivia, parce qu'Olivia qui est à terre, c'est pas tout à fait n'importe qui. Elle a commencé ses études à l'ULB, à Bruxelles, l'Université libre française une fois. Elle a après été à Montréal, et maintenant, après, elle a fini à la faculté, à Lille, et elle est à terre à Lille. Alors, est-ce que c'est différent de faire ses études en Belgique, au Canada ?
Alors oui, c'est sûrement différent de faire ses études en Belgique et au Canada qu'en France. Moi, j'ai fait assez peu d'études en France, donc c'est quelque chose sur quoi j'ai peu de points de comparaison. Mes points de comparaison me viennent surtout des étudiants eux-mêmes à qui je donne des TD maintenant. La Belgique et le Canada, il y avait une similitude qui est qu'il y a un rapport à l'enseignement qui est... On se l'approprie énormément, on n'a pas peur de poser des questions, on est là pour apprendre quelque chose, pour être acteur de son savoir. Il y a un investissement assez fort des étudiants, pour les étudiants belges, parce que toute leur scolarité est faite sur le modèle de pour obtenir son année, il faut avoir 12 de moyenne. Donc le travail est plus important que pour obtenir 10, forcément. On estime qu'il faut connaître 60% d'une matière pour avoir le diplôme.
En France, on peut jouer avec les impasses.
En Belgique, on ne peut pas, parce qu'il y a des notes qui sont éliminatoires. Et donc, si on a 15 ou 16 de moyenne et moins de 7 à une matière, on n'a pas son année.
Alors, tu disais, on peut poser des questions ? On n'a pas le droit de poser des questions, ici ?
J'ai l'impression que c'est plus difficile, que les étudiants ont du mal à reconnaître qu'ils ne savent pas, qu'ils ont un petit peu honte de ne pas être au courant, qu'ils préfèrent noter tant bien que mal ce qu'ils ne comprennent pas et se débrouiller après pour essayer de trouver la réponse. Lever la main et dire « je ne sais pas », c'est vraiment quelque chose qui leur vient pas tout de suite. Il faut les mettre à l'aise pour qu'ils puissent se permettre de le faire.
Alors, est-ce qu'on les met à l'aise ? Est-ce que dans la nouvelle logique pédagogique, il y a plus d'échanges qu'avant ? Est-ce qu'on est moins en... Ah, je crois que Farida a son opinion sur la question.
On fait tout pour les mettre à l'aise, les étudiants, mais c'est vrai que on sent... c'est peut-être négatif ce que je vais dire, mais une certaine passivité de la part des étudiants. Ils sont là. On est de plus en plus aujourd'hui dans une logique où l'étudiant vient, il consomme et il repart. Et ça, on le sent depuis plusieurs années. Et pourtant, on essaye de faire, j'ai entendu dire, des cours avec des petits effectifs, des exposés. Mais c'est l'étudiant qui est comme ça, quoi. Il y a une passivité.
Alors Olivia, après, comment on peut... Oui, le Gabon. Une expérience du Gabon, Pierre-Henri. Non,
surtout faire l'avocat du diable un tout petit peu, parce que en fait, c'est pas effectivement il y a une sorte de passivité de la part des étudiants, mais je pense aussi que le contexte étant généralement des cours dispensés dans des amphithéâtres, donc il y a un peu ce côté un peu magistral où il y a l'enseignant qui est sur un point central et qui dispense un savoir. Et c'est, je pense que c'est quand même assez culturel en fait en France. On voit par exemple dans des pays anglo-saxons où c'est vraiment la plupart des cours sont dispensés dans des classes des structures un peu plus réduites, en fait. Je ne sais pas si la différence a été observée, justement, en Belgique ou au Canada. Mais effectivement... Si, tout à fait,
oui. Olivia, tu étais au Canada français ou au Canada anglais ?
J'étais à Montréal, qui est bilingue. J'étais, moi, dans une université anglophone.
Alors, est-ce que tu...
Et effectivement, c'était ça.
Dit...
Bon, après, j'étais en cinquième année. Donc, de toute façon, le format de cours est différent, même en France. Mais c'était... des petits effectifs et des cours où il ne s'agit pas tant d'écouter le professeur que de discuter des textes qu'on a lus, d'avoir un débat, un dialogue, d'amener sur la table à la fois ce qu'on pense, qu'on ressent, mais aussi les apports théoriques qu'on a acquis par son travail personnel, qui est assez important. Et effectivement, il y a beaucoup moins de cours magistraux.
Est-ce que tu as le sentiment que la faculté de sciences économiques et sociales va vers un modèle plus anglo-saxon ?
Je saurais pas dire pour toutes les matières, mais c'est vrai que en sociologie, en tout cas, la plupart des cours magistraux ont un TD qui est un petit effectif, où la plupart des chargés TD que je connais essayent de mettre l'accent sur le débat, sur l'échange, sur la possibilité de poser des questions. Après, aux étudiants de s'en saisir ou pas.
Après, là-dessus, il y a aussi une autre méthode qui a été utilisée au niveau de l'université. Il y a d'autres canaux d'enseignement qui ont été utilisés, comme par exemple la plateforme Moodle, qui est quand même, pour rappeler rapidement, il s'agit du site internet de l'université qui permet aux enseignants de déposer des cours et aux étudiants d'avoir accès à ces cours, avoir accès à un certain nombre d'activités pédagogiques en ligne et poser éventuellement, animer des forums, etc.
Mais c'est bien ça, parce que c'est plus intéressant d'avoir le contact humain.
C'est plus dynamique. on va dire, c'est plus dynamique dans le sens où effectivement l'étudiant qui n'a pas toujours effectivement l'aisance ou orale hein, ou le courage de pouvoir poser des questions directes devant un amphithéâtre, je vais dire, de 50-100 personnes, a quand même la possibilité d'adresser un message écrit beaucoup plus intime et beaucoup plus facile. En fait, on sent que la parole se libère à ce niveau-là. Par expérience, je me suis rendu compte qu'effectivement, lorsque de ma dernière année d'études, il y a beaucoup d'étudiants qui, en cours, ne disaient rien du tout et qui osaient quand même poser des questions, oui, via Moodle, via la messagerie, via les nouvelles technologies d'information, d'où l'innovation de l'université.
Alors, Quentin, qui est en première année, il aime bien les nouvelles technologies ou il aime bien le vieux système où on est un petit peu paterné, pour pas dire materné ?
Mais étant aussi en école de communication, je trouve aussi que les nouvelles plateformes comme Moodle, etc. sont vachement sympas pour nous, la nouvelle génération. Ça permet de dynamiser un peu les relations étudiants avec les professeurs. Surtout que je trouve aussi, comme vous l'avez tous dit avant, que maintenant, dans notre génération, il y a vraiment un manque... c'est vraiment un dynamisme moins important qu'avant, je pense, et une passivité beaucoup plus réelle en cours.
Émilie ? Des étudiants étrangers, il y en a beaucoup ?
Oui, alors sur l'université, donc les étudiants étrangers représentent 20% de l'effectif total. Et comme nationalités les plus représentées, donc on a les Marocains, les Chinois et les Algériens.
Et tous ces étudiants vont ensemble le long de la route avec Zaz.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. La peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains. Coûte que coûte, prenons-nous la main le long de la route. Laissez vivre la vie, glisser sans retenir.
Pierre-Henri, toi, tu es du Gabon.
Tout
et
à
donc,
fait.
Est-ce que le fait de... d'être du Gabon, t'as donné une perception différente des autres étudiants ?
Oui, ça peut être paradoxe, enfin bizarre, mais effectivement, on découvre, on a quand même une coupure par rapport à la famille qui est beaucoup plus importante parce qu'on a notre famille qui est à l'étranger et on se retrouve dans un pays étranger. Je pense que tu as bien pu le vivre aussi, Olivia.
Oui.
Un tout petit peu. Après, ce qui est intéressant, effectivement, avec l'université, les universités françaises en général, c'est vraiment le niveau international en termes de brassage culturel qu'il y a dedans. Franchement, c'était une de mes meilleures expériences de vie parce que rien qu'au sein de mon parcours, j'ai eu près de 25 nationalités à côtoyer, différentes langues, etc. à apprendre, des petits mots, hein, mais pas grand-chose. Mais ça a été vraiment très intéressant de pouvoir humainement découvrir ce genre de choses-là.
Alors, tu as choisi la filière commerce international. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers
Non, justement, parce que juste avant, j'avais été en licence AES à Lille 2 et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait tout autant d'étrangers, en fait. Donc, et pourtant, c'était pas plus international que ça. Et donc, je me rends compte quand même que l'université accueille pas mal d'étudiants étrangers à ce niveau-là. Ouais. Je trouve que c'est un très bon atout de l'université.
C'est la même chose à Bruxelles, à Montréal. Il y a... Parce que moi, j'ai connu il y a 40 ans l'université. Les étrangers, on les comptait sur les doigts de la main. Hein.
À Bruxelles, j'étais une des seules étrangères et pas une étrangère de très loin puisque j'étais française. À Montréal, par contre, il y avait beaucoup plus d'étrangers. Je vivais avec des Polonais, avec une Japonaise. Dans ma faculté, il y avait énormément de nationalités représentées. Mais même là, actuellement, à l'école doctorale où je suis, on a des doctorants libanais, on a des doctorants roumains. C'est aussi assez varié.
Farida Djellal, le doyen. Alors, qu'est-ce qui va se passer le jeudi 16 juin ? On va parler de tout ça ? On va parler pédagogie ? On va parler recherche ? On va parler international ?
Bah, je crois qu'on a tout dit, effectivement.
On a tout dit, mais il ne faut pas venir, alors.
Je veux dire, on a bien résumé ce que va être la journée. Loin de là, au contraire, j'invite enseignants, chercheurs, étudiants, personnel administratif à participer à cette journée. Ça va vraiment être un moment fort. Rares sont les occasions, en fait, où on peut, effectivement... faire un retour sur ce qui se passe au sein d'une faculté. Donc ça va être l'occasion de le faire. Et donc j'invite, ça va être un moment fort, et donc j'invite l'ensemble des personnes intéressées par cette journée à y venir.
Il y aura un gâteau d'anniversaire ?
Il y aura un cocktail au bâtiment des thèses à 18h30. Le gâteau d'anniversaire, je ne sais pas.
Et c'est Farida qui va le souffler. Merci à tous les invités. Merci à Marita, notre doyen. Et au revoir. À bientôt.
C'était Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. Vous pourrez réécouter cette émission dès demain sur le www.campuslille.com. Excellente soirée à toutes et à tous.